Père, au moment de partager le témoignage de l'Écriture, nous te prions pour que ton Esprit soit là pour nous aider à tirer le meilleur de ce témoignage, afin que nous puissions en vivre et le partager tout au long de nos jours. Amen. Alors, je vous invite à parcourir le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Tout d'abord, Corneille a une vision qui lui dit d'aller chercher Pierre pour une rencontre qu'il ne connaît pas encore tout à fait. Mais c'est vrai que Corneille est un païen d'origine qui a tendance à aimer Dieu et à prier souvent Dieu. Donc il a cette vision. Et donc, il va envoyer deux personnages pour aller chercher Pierre à Joppé. Pendant ce temps-là, Pierre lui-même, de son côté, a une vision que je vais vous lire au verset 9. Le lendemain, tandis que poursuivant leur route, ils se rapprochaient de la ville, Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Quand la faim le prit, il voulut manger. On lui préparait un repas quand une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert. Il en descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par quatre points, venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes et tous ceux qui rampent sur la terre et tous ceux qui volent dans le ciel. Une voix s'adressa à lui. « Allez, Pierre, tu manges. »« Jamais, Seigneur, » répondit Pierre, « car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde et d'impur. » De nouveau, la voix s'adressa à lui pour la seconde fois. « Ce que Dieu a rendu pur, toi ne vas pas le déclarer immonde. » Cela recommença trois fois et l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. Alors évidemment, Pierre, il a du mal à comprendre ce qui vient de lui arriver, mais l'Esprit est là pour lui faire comprendre qu'il a une mission à accomplir et qu'il doit rencontrer Corneille. Et c'est à ce moment-là que les envoyés de Corneille arrivent. Et ils vont donc chez Corneille. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lui dit Pierre. » Et il l'aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. » Alors, ils racontent un petit peu leurs aventures et Corneille dit « Il y a trois jours, j'ai eu cette vision, etc. » Enfin bref. Et Pierre ouvre la bouche et il dit « Je me rends compte que Dieu n'est pas partial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Son message, il a envoyé aux Israélites la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction de l'Esprit. Et il raconte à partir de là le ministère de Jésus. Et c'est à ce moment-là que Pierre va demander que Corneille puisse être baptisé, lui et toute sa maisonnée. Alors, il faut revenir sur ce texte, que je vous invite à lire en entier peut-être ce soir ou à un autre moment, je ne sais pas, mais vous verrez que c'est un texte extrêmement riche et extrêmement lourd en théologie, et c'est un texte clé qui marque un tournant dans l'histoire, véritablement. Je dis bien dans l'histoire en général, pas seulement l'histoire de la Palestine ou notre histoire chrétienne, on est bien au-delà de tout cela. C'est parce que c'est le début de la grande aventure de l'évangélisation. Cette aventure qui va conduire des disciples jusqu'en Inde. La tradition dit que Thomas est allé en Inde, et puis ses disciples vont passer par l'Arménie, qui sera le premier royaume chrétien, et puis aller jusqu'à Rome avec Paul et Pierre, et sans doute bien d'autres encore. Voilà, et partout après dans le monde. C'est pour ça que cet événement, ce chapitre 10, qui marque ce tournant de l'Évangile qui va être annoncé véritablement au monde païen, est vraiment un tournant qui marque véritablement l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui sont les acteurs de tout ça. Dans la première alliance, moi, je suis assez frappé par tous les porteurs de la parole, les prophètes, comme on dit. Ils sont extrêmement variés, ils ont des personnalités très variées, des histoires. Vous avez Ésaïe, qui est presque un noble, véritablement un homme de cour, qui a l'oreille du roi, jusqu'à Amos, qui lui est berger à Tekoa, dans le sud de la Palestine. Et entre les deux, on a un petit peu toutes sortes de gens, en passant par Ézéchiel, qui est le grand prophète de l'exil, et d'autres. Mais ce sont des gens qui ont des problèmes. Un très très grand prophète qui a accompli des miracles, des grandes aventures, etc., est en fait quelqu'un qui est en pleine dépression, qui serait très à la mode aujourd'hui, c'est Élie. et relisez le livre des rois, et on a l'impression lorsqu'on lit ces gens-là qui nous ressemblent terriblement et qui se sentent écrasés par le message qu'ils doivent annoncer. Ils rechignent souvent. Je pense à Moïse qui essaye de se défiler lorsque Dieu lui dit « Tu vas aller trouver le Pharaon, hein, etc. » Et Moïse ne veut pas y aller. Et puis Moïse dit « Je parle très mal, il va rien comprendre. » Et c'est là où Dieu lui dit « Écoute, tu prendras Aaron avec toi, il traduira. » Je veux dire, voilà, clac. Et donc, Moïse est bien obligé d'y aller. Élie est complètement dépressif dans sa grotte. Là, et Dieu va le sortir de là et va le faire partir, de même que Amos derrière son troupeau, était bien tranquille. Et il le dit « Dieu m'a sorti du troupeau, de derrière mon troupeau, pour aller annoncer la nouvelle. » Et ainsi de suite, on pourrait trouver comme cela bien des exemples, et finir par Jésus-Christ lui-même, qui par moments chancelle aussi, il se trouve pas du tout au niveau de ce qu'il attend. Et lorsqu'il dit « Père, éloigne de moi cette coupe si tu peux », ou alors sur la croix « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Il y a comme cela des pages d'humanité qui passent par tous ces hommes de la Bible qui sont là. Et les hommes du Nouveau Testament sont comme ça aussi, je pense à Pierre, évidemment ce Pierre qui est là, qui va être le premier de ces hommes, qui va baptiser un païen. Pierre, il est fantastique. Il est gaffeur dans l'évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est violent même par moments, parce qu'au moment de l'arrestation de Jésus, il est prêt à en découdre physiquement avec les sbires des grands prêtres. Il va renier Jésus trois fois, et au pied de la croix, il n'y est pas. Il n'est pas là, je veux dire. Donc, Pierre, il est comme ça, et puis finalement, il va être le leader, ou un des leaders de la première communauté chrétienne. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de constater cela, de constater que tous ces hommes, ces prophètes de la première alliance, comme les témoins de la deuxième alliance, je pense à Paul, pareil, qui est persécuteur et qui va devenir un champion du christianisme, et quelques autres, c'est intéressant de voir comment ces hommes sont transformés par la puissance de l'Esprit. Ils sont véritablement ressuscités. Ce sont bien eux, évidemment, avant et après l'événement, avant et après la rencontre, mais il y a quelque chose de changé fondamentalement. De même que Jésus, au moment de la résurrection, c'est bien le même Jésus, évidemment, mais ce n'est pas tout à fait le même. Donc, il y a quelque chose de décisif qui s'est passé, qui fait que c'est bien Jésus dont on peut toucher les plaies, évidemment, Jésus qu'on reconnaît au partage du pain, par exemple, aussi, ou du poisson dans l'épisode au bord du lac. C'est bien le même, mais voilà, il passe des murs sans qu'on sache très bien comment, il apparaît, on ne sait pas très bien comment, etc. C'est bien le même, mais il y a un changement fondamental. Eh bien, je crois que c'est ça, un des signes de la résurrection, c'est ça. Et tous ces hommes de la Bible, avec Pierre, évidemment, dont je citais l'exemple là, ce sont des ressuscités, en fait. Ce sont des gens qui, face à des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, des problèmes qui peuvent les écraser, sont remis debout, finalement, pour repartir avec une mission importante, parfois difficile, qu'ils vont accomplir envers et contre tout. Je crois que c'est ce passage des Actes des Apôtres qui nous présente Pierre ainsi, qui va être obligé de passer au-dessus de ses convictions profondes, parce que c'est un intégriste, Pierre. Il rechigne aussi, comme Moïse et comme d'autres dont j'ai parlé tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant que ces hommes-là soient là, et qu'ils ne soient pas parfaits, parce que comme ça, ils nous ressemblent, ou nous leur ressemblons. Je crois que le premier message de la bonne nouvelle, tel qu'il apparaît dans ce passage des Actes des Apôtres, c'est de dire, voyez ce leader qui est Pierre, qui est à la tête, selon la tradition de la première communauté chrétienne à Jérusalem, ben, il n'est pas parfait. Voilà. Je ne doute pas que vous ne soyez pas trop mal, évidemment. Je ne me permettrai pas de vous juger, ça va de soi. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas parfait. Ça, j'en suis intimement persuadé. Pas plus que les pasteurs, d'ailleurs. Souvent, mes pasteurs voudraient qu'ils soient formidables, etc. On a quelquefois des idées sur eux. Non. La bonne nouvelle, elle touche les gens de tous les jours. Vraiment tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Il n'y a pas un tampon marqué sur le front de la personne disant « celui-là, il est digne de la bonne nouvelle, il est digne d'être un ressuscité ». Non, absolument pas. Il peut être comme Pierre, il peut râler, il peut renier, etc. Mais il n'empêche qu'il peut être un ressuscité debout à la tête de sa communauté, en train de prêcher la bonne nouvelle, en faisant fi finalement de ses pratiques religieuses intégristes. Jamais je n'ai mangé d'être immonde toute ma vie. D'abord, qu'en sait-il ? Si on regardait vraiment dans le détail, je ne suis pas sûr qu'il ait pu échapper à cela. Mais enfin, peu importe, il va au-delà. C'est la bonne nouvelle, le premier point. Le deuxième point de la bonne nouvelle dans ce passage, c'est véritablement Corneille. Corneille, il a une certaine sensibilité, une certaine accessibilité à la parole, etc. Il est craignant Dieu. Visiblement il glisse vers le monothéisme, il respecte le judaïsme, mais il n'est pas circoncis, mais c'est un païen, mais c'est un officier romain du grade à peu près de centurion, c'est à peu près capitaine, si on fait une comparaison un petit peu osée avec aujourd'hui. Et puis il est officier d'une armée d'occupation, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas fréquentable. D'ailleurs, c'est dit dans le texte, les Juifs n'ont pas de relation avec ces hommes qui sont considérés vraiment comme étant impurs. Et donc il y a cette vision qui est là, la grande vision de Pierre, où Dieu dit « il n'y a pas d'être impur finalement », qui fait que Corneille sera le premier à être au bénéfice de cette vision et de la parole qu'il va entendre de manière directe de la part d'un témoin, de la part de Pierre. Ça aussi, c'est formidable. De même que tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, je disais qu'au niveau des responsabilités, tout ça, ce n'est pas la qualité de l'individu qui fait qu'on va être un élu ou pas, etc. Avec Corneille, on élargit encore plus la perspective, si je puis dire, et véritablement, ce sont tous les êtres humains qui sont au bénéfice de la bonne nouvelle, du salut. Et c'est ça qui fait que nous sommes chrétiens, finalement. C'est pas vraiment autre chose. On pourrait définir le christianisme par bien des choses. Moi, je pense que le christianisme, c'est la religion qui annonce le salut pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient païens, qu'ils soient officiers romains, ou qu'ils soient Pierre, Jacques ou Jean, que sais-je encore, ou l'un d'entre nous, peu importe. Dire il n'y a pas d'exclus, et c'est ça qui est fondamental. Il y a les signes, il y a des signes de cela dans le monde qui nous disent, et dans nos vies, qui nous disent qu'effectivement nous sommes des élus. Et dans le texte, dans ce que je vous ai lu et raconté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à un moment donné, Corneille est au pied de Pierre qui lui dit relève-toi, moi aussi je ne suis qu'un homme. Et quelques lignes après, Corneille dit « Voilà 3 jours ». Le fait d'être relevé avec ces 3 jours, étant donné que je crois vraiment fermement qu'il n'y a pas de choses laissées au hasard dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je crois que ces 2 références, liées entre elles, dans un même récit, nous parlent de résurrection. Corneille, est un ressuscité. Corneille est remis debout. Corneille, après ces 3 jours de prière, d'attente, de vision, etc., hein, est quelqu'un qui est nouveau. C'est un être nouveau, finalement. Le signe de la résurrection, le signe du salut, qui nous touche tous les jours, chaque fois que nous sommes remis debout devant un problème, quel qu'il soit, eh bien, là, dans ce texte, c'est le baptême. Ça aurait pu être la Sainte Cène, lorsque Jésus partage avec les uns et les autres les signes de sa présence. Et là, c'est le baptême. Pas que le baptême, véritablement, vient dire aux impétrants, à celles et ceux qui sont baptisés, bien, écoutez, vous aussi, vous êtes dignes d'être des élus, quelle que soit votre appartenance. On ne vous demande pas si vous êtes athée, catholique, protestant, italien, puisqu'il y a au moins quelqu'un, au moins 2 personnes originaires d'Italie ou du Portugal ou que sais-je encore, ou de France, peu importe. Dire, c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont appelés à être debout dans un face-à-face avec Dieu, dans la dignité de l'être humain. Et c'est ça que ce texte aussi implique. Il implique une nouveauté pour ceux qui entrent dans ce texte, une nouveauté qui fait que, transformés par le récit, ils vont poser sur le monde autour d'eux un regard nouveau. Ils vont voir dans les autres, non pas des étrangers, non pas des êtres indignes, que sais-je encore, mais ils vont rencontrer des frères et des sœurs, véritablement, des êtres humains qui sont appelés à être debout. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, c'est de dire, vous savez, c'est vrai qu'il y a le royaume qui est promis. Ça reste bien mystérieux. Il y a la grande résurrection finale. Ça aussi, ça reste mystérieux. Mais comme le dit l'apôtre Paul, l'espérance, elle est fondée sur des signes. Et ces signes, il y en a dans la vie. Chaque fois qu'on se rencontre, chaque fois qu'on s'accueille, qu'on s'écoute, qu'on a envie de construire, de bâtir, chaque fois qu'on a le sentiment de sortir de soi-même et d'être un peu plus que ce qu'on est, chaque fois qu'on a le sentiment qu'il y a un amour très fort, une puissance très forte qui nous transporte, qui nous transforme, on a là des signes, une présence ineffable qui nous dit quelque chose du royaume. Chaque fois qu'il y a un baptême, chaque fois que nous recevons dans l'Église, il y a quelque chose qui est important et qui se passe dans le cœur des hommes. C'est ça le signe du royaume. Et comme le dit même l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, à la fin de l'épître aux Corinthiens, la grâce te suffit. Voilà. Entendre la grâce. Je crois que ce n'est pas pour rien que dans tous nos cultes, nous commençons toujours nos paroles, peu ou prou, par « La grâce et la paix vous sont offertes, vous sont données. » La grâce et la paix. La grâce nous suffit. C'est bien suffisant pour pouvoir vivre, pour pouvoir réaliser qu'il y a des signes qui nous remettent debout, comme Corneille a été remis debout. Qu'il y a des signes comme le baptême, qui nous disent qu'il y a un accueil inconditionnel qui est là. Qu'il y a des signes comme la Sainte Cène, qui nous disent « La table est ouverte ». Qui nous disent que le temple est ouvert, l'église est ouverte, que le monde est ouvert. Le message de la Bible, c'est un message de dignité incroyable, véritablement. Et j'avais fini par écrire ces quelques lignes. Je veux dire, l'Esprit est là dans le baptême. Il est là dans le baptême d'un enfant en particulier. Parce que précisément, l'enfant est... Les Romains disaient qu'il était neutre. Ils ne peuvent rien dire. On ne peut pas leur demander de confesser leur foi. C'est quand même difficile, évidemment. Et donc, le signe du baptême pour un enfant, c'est vraiment la gratuité de l'amour. Véritablement. C'est pour ça que c'est important, les baptêmes d'enfants. L'Esprit est là. La grâce suffit. Pierre baptise Corneille et nous baptisons avec un même étonnement, avec une même joie, une même espérance des enfants, comme ceux d'aujourd'hui, comme Mao et Léopold, sans discernement. Nous baptisons aussi à tout âge. Il m'est arrivé en tant que pasteur de baptiser une dame de plus de 80 ans une fois, et je m'en souviens encore, c'était assez formidable, assez émouvant et étonnant, je veux dire. Nous baptisons toute personne qui demande le baptême, qui demande un signe, véritablement. Nous baptisons parce que tous les êtres humains, véritablement tous, sont dignes du royaume. Tous sont sous le regard de Dieu révélé en Jésus-Christ. Tous sont appelés à être des ressuscités, debout, dans le face-à-face avec Dieu, grand ou petit. Tous sont des êtres humains. Amen.